Bonjour, je commence d'abord pour vous souhaiter la bienvenue au Parlement portugais, à la Maison de la démocratie et à la Commission Affaires européennes. Aujourd'hui, nous avons une agenda très surchargée. Une fois que nous aurons immédiatement après le déjeuner, début d'après-midi, le debriefing du Conseil européen avec la secrétaire d'État Affaires européennes, je sais que vous avez aussi un agenda très surchargé. Donc, on va faire tous les efforts pour terminer à 1h15. Je commence pour vous présenter mes collègues. Carlos Gonçalves, il est député du PSD, du groupe IPP, et aussi le président de du groupe d'amitié entre le Parlement portugais et l'Assemblée nationale. Et Madame Ana Paz, elle est aussi du Parti socialiste, du groupe du Parti socialiste, donc du groupe SID. Au niveau européen. Et moi-même, je m'appelle Marguerite Marx, je suis vice-présidente de cette commission Affaires européennes. Et oui. Et il y a encore un autre député qui vient d'arriver, Pedro Mota Soares. Il est membre du CDS, du Centre démocrate chrétien, donc aussi de la famille politique IPP au niveau européen. Donc, nous devons terminer à 1h15. Je pense que vous avez une connaissance, vous appartenez au groupe d'amitié France-Portugal, donc vous connaissez plus ou moins le fonctionnement du Parlement et la situation politique, économique au Portugal. J'imagine aussi que votre ambassadeur et notre ami Jean-Michel Casa vous a fait l'état de l'art sur la situation politique au Portugal. Nous sommes en plein débat sur le budget d'État. Donc on va commencer justement lundi prochain. Ça sera la première séance plénière pour le débat du budget. Mais on commence déjà à travailler dans les commissions. On a déjà commencé hier à travailler dans le cadre des commissions pour le débat complet du budget. Comme vous savez, c'est un long débat de presque un mois et donc c'est notre point le plus important pour l'agenda. Ce que j'aimerais vous proposer en parlant avec mes collègues, et je pense que Pedro Mota Soares peut aussi suivre cette approche, on vous donne la parole, vous posez les questions que vous souhaitez, que vous trouvez pertinente pour cette réunion. Et après, nous-mêmes, on va vous répondre aux questions dans la mesure où il y a une réponse. De toute façon, quand je dis ça, cela ne veut pas dire que vous allez vous limiter à poser des questions, mais aussi à faire vos analyses. Donc, on est à votre disposition pour vous entendre et pour réagir à vos commentaires. Merci.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci à Carlos González aussi d'être notre correspondant au Portugal et nous avoir permis de venir passer ces 3 jours. On est extrêmement intéressés. Je voudrais, pour commencer, vous présenter la délégation qui est à mes côtés. Donc, si je pars de mon collègue Dominique de Lège, qui est sénateur républicain, donc de droite de Bretagne, d'Ille-et-Vilaine très précisément, c'est-à-dire que la ville autour de la ville de Rennes, qui est membre de la commission des finances et en charge très spécialement du rapport sur le budget des armées. À côté de moi, Joël Guerriot, qui est du centre, raccroché en partie au parti du président de la République, à travers les constructifs, ce qu'on appelle les constructifs. Il n'est pas en marche, mais il est à la lisière entre la droite et en marche. Joël Guerriot est maire d'une ville de 27 000 habitants en Loire-Atlantique, à côté de Nantes, et sénateur et membre de la commission des affaires étrangères et de la défense. Donc moi-même, je suis, en dehors d'être président du groupe d'amitié France-Portugal, et heureux de faire partie de ce groupe. Je suis sénateur de la Sarthe, donc qui est entre Le Mans et Tours, et membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. À côté de moi, je suis membre aussi des Républicains, donc la partie droite du Sénat, majoritaire. À côté de moi, notre caution socialiste, Nicole Bonnefoy, qui est sénatrice de Charente, donc Angoulême, et qui est membre aussi de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, avec une spécialité à la fois sur les aéroports et en même temps tout ce qui est en relation avec l'environnement et la santé. Et puis évidemment, Monsieur Blouet, qui est administrateur au Sénat et qui est le secrétaire donc de ce groupe d'amitié. D'abord, je voudrais vous remercier et puis vous féliciter tous de la façon dont vous parlez admirablement le français. Nous sommes extrêmement touchés, extrêmement agréablement surpris, pas surpris parce qu'on le savait que les relations entre le Portugal et la France, même si elles n'ont pas toujours été faciles, et notamment au XIXe siècle, par des invasions entre guillemets françaises au Portugal, qui n'ont pas duré longtemps. Mais si, voilà, mais on est extrêmement sensible au fait que la langue française joue un rôle dans ce pays, et comme nous savons aussi combien les Portugais sont attachés à un développement mondial et combien la France a été, et les Français maintenant au Portugal, et les Portugais aux Français ont été de façon importante, ont toujours été présents et ont joué des rôles importants, mais pas qu'en football. Nous sommes aussi heureux de parler avec vous d'Europe, puisque l'année prochaine va être une année extrêmement importante. Les élections européennes du mois de mai prochain est dans l'esprit de tout le monde, avec deux inquiétudes. La première inquiétude, c'est l'intérêt des personnes pour l'Europe, avec aujourd'hui les pays qui ne se retirent pas de l'Europe, mais qui montrent un doute sur l'Europe, alors que nous savons parfaitement entre le monde asiatique d'un côté et les États-Unis de l'autre combien l'Europe doit se renforcer, d'être solidaire pour permettre de jouer un rôle sur la planète important. Donc on espère que ces élections européennes seront aussi une participation citoyenne importante pour l'avenir. Et puis ce qui nous intéresse aussi, bien évidemment, c'est comment le Portugal se situe vis-à-vis de l'Europe, comment est-ce qu'il y a une solidarité des partis politiques vis-à-vis d'une politique européenne portugaise, et puis comment l'Europe aide le Portugal à travers les fonds, que ce soit des fonds d'infrastructures, que ce soit les fonds de développement régionaux comme le FEDER, que ce soit les fonds éducatifs aussi. Donc nous aimerions beaucoup connaître un peu la philosophie des Portugais vis-à-vis de l'Europe, comment vous voyez les élections européennes l'année prochaine, et comment les Portugais voient aussi les élections européennes l'année prochaine, et comment aussi l'Europe apporte son soutien au Portugal. Et je laisserai après mes collègues, s'ils ont d'autres questions plus spécifiques, les poser. On vous remercie encore une fois de votre accueil et d'avoir pris sur votre temps budgétaire. Nous, on va commencer bientôt le budget en France, et on voit que vous êtes déjà en plein dedans.
Je passe la parole au PSD, une fois que c'est le parti le plus avec plus de députés au Parlement.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur les sénateurs, chers collègues. C'est vrai qu'on est le parti qui a plus de parlementaires, mais on n'est pas au pouvoir. On a, comme vous savez, une expérience de gouvernement très singulière. Il y a une autre qui se ressemble un peu au Luxembourg, aussi à une alliance, plusieurs partis, et qui, il y a eu les élections la semaine dernière. Et c'est à peu près la même chose, même si les composantes, disons, idéologiques sont différentes.
L'Espagne.
Oui, c'est vrai, l'Espagne. J'avais oublié nos voisins, qui ont peut-être pris exemple sur, nous. Bon, bien sûr, au nom de mon groupe parlementaire, dont je suis coordinateur des députés de la Commission des affaires européennes, je tenais, bien sûr, à remercier l'intérêt que cette délégation du groupe d'amitié porte sur les questions européennes. Je me rappelle quand on a été, je suis président du groupe d'amitié, bien sûr, parlementaire Portugal-France, et quand on avait fait une visite à Paris, on a été reçu au Sénat, et on a été aussi reçu par la commission qui traite des affaires européennes au Sénat. C'est vrai que c'est un thème très important, là. On a les élections très prochainement. Vous demandez, Monsieur le Président, l'intérêt. Les Portugais, encore aujourd'hui, sont pour l'Europe. Ils considèrent l'importance de l'Europe, déjà pour le développement du pays, depuis son entrée, c'est quelque chose de très important. L'intérêt pour les élections, ça, c'est un peu plus difficile. Les élections européennes n'ont pas une très grande participation. Et la grande question, c'est que les sujets qui seront à l'ordre du jour au Portugal sont peut-être différents d'autres sujets au niveau de l'Union européenne. La question des migrations, c'est un thème qui aujourd'hui envahit, disons, l'espace public et du débat par rapport aux questions européennes. Au Portugal, ce n'est pas ce thème-là qu'on va surtout aborder en campagne électorale, même si on l'abordera, bien sûr. Mais on abordera surtout les questions des fonds que vous avez, Monsieur le Président, citées, qui sont très importants pour le pays, qui ont été importants, qui sont importants et qui sont importants pour l'avenir. Et c'est pour ça que cette commission, avec une autre commission seulement pour ces questions, ce qui est les financements qui viennent dans les années futures au niveau de l'Union européenne. On a des réunions toutes les semaines pour écouter diverses personnalités, parce que c'est le thème crucial pour le Portugal. Quelle sera l'aide, le soutien de l'Europe par rapport à notre pays à divers niveaux, et il sera certainement des thèmes qui sera en campagne électorale. Au Portugal, on n'a pas d'extrême droite, au moins on n'a pas de parlementaires d'extrême droite dans l'hémicycle, mais c'est vrai qu'il y a des partis politiques, il y en a trois qui d'habitude ne sont pas avec nous sur les questions européennes. Et c'est vrai que même si on a un gouvernement qui est avec les socialistes et les partis de gauche et extrême-gauche, c'est vrai que pour les affaires européennes, la plupart des thèmes importants pour le pays, on arrive à avoir une autre majorité parlementaire avec nous, avec les démocrates chrétiens et avec les socialistes. Donc on arrive quand même, dans le débat politique au sein de cette Assemblée, de différencier l'international, souvent sur les questions européennes, où il y a un grand bloc de députés qui n'est pas le même qui gouverne le pays, qui est tenu par le Parti socialiste, par nous et par les démocrates chrétiens. D'accord, c'est comme ça. Et c'est une question aussi intéressante, et ça montre aussi l'intérêt qui est porté par les questions européennes, les affaires européennes, pour l'intérêt national du pays. Et ça montre bien, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment reconnu au Portugal, mais contre des partis politiques qui font des combats parfois difficiles. Vous avez à voir le budget, qui va être un combat toujours difficile. Après, pour ces questions-là, ils arrivent à trouver un terrain d'entente, ce qui, je trouve, sincèrement, quelque chose de très important. Donc, les eurosceptiques, ils existent, mais aujourd'hui, au Portugal, et dans la seule chambre, parce qu'on a que le Parlement, on n'a pas de Sénat au Portugal, aujourd'hui encore, l'Europe est, disons, bien vue, elle est essentielle pour le débat politique et au sens européen. Et comme vous venez de France, je vais vous dire une chose qui me paraît importante, et je terminerai là-dessus. C'est que être européen, c'est aussi utiliser cette citoyenneté. Et regardez les Portugais de France. Si vous voyez, par exemple, ce qui est les entrepreneurs, les entreprises, dès le moment où les Portugais sont devenus citoyens européens, c'est là où les Portugais ont commencé à créer des entreprises en France. Donc c'est l'Europe qui a donné un plus à cette communauté pour qu'en France, et aujourd'hui, ils s'inscrivent dans une place. Ils ont 45 000 entreprises portugaises en France. Et donc, ceux qui bénéficient de cette unité, quand ils vont vivre à l'étranger, ont peut-être une idée bien différente quand nous sommes dans nos pays, nous vivons dans nos pays, et nous ne comprenons pas vraiment l'intérêt d'avoir, disons, pas une double nationalité, mais avoir un point plus large au niveau géographique, culturel, qui est l'Europe. Et ceux qui ont la possibilité de vivre dans un autre pays européen, ou même un extérieur de l'Europe, savent très bien que, par exemple, quand on est, par exemple, au Venezuela aujourd'hui, être européen, même si on est français ou portugais, on est presque frères. On est dans le même problème, on est dans le même encadrement juridique, et on aimerait bien que l'Europe, s'il y a un problème, puisse nous venir nous sauver. Encore une fois, merci de votre venue et de votre intérêt par les questions européennes, que vous avez compris, c'est encore un pilier d'accord, disons, entre les grands partis portugais.
Merci. Je vais aussi réagir au nom du Parti socialiste aux deux points que vous avez soulevés. Le premier sur les élections européennes. Les élections européennes au Portugal se tiendront le 26 mai. J'imagine que c'est la même date en France, parce que vous avez des élections aussi les dimanches. C'est vrai qu'on a l'habitude, regardant le passé, que normalement, les élections européennes et la campagne électorale ne vont pas se limiter aux affaires européennes. Nous avons une situation très intéressante vis-à-vis des affaires européennes, c'est que effectivement nous avons une situation très particulière concernant le gouvernement. Le gouvernement est soutenu au Parlement, il n'a pas une coalition. Mais le gouvernement, le Parti socialiste, est soutenu au Parlement par le Parti communiste et le Bloc de gauche, qui ont les deux appartiennent au groupe GUE-NGL au Parlement européen, mais qui ont des positions assez différentes vis-à-vis de l'Europe. Et c'est très intéressant parce qu'à mon avis, nos amis des autres partis à ma gauche... Voilà. Aujourd'hui, à ma gauche, vont essayer de mettre en évidence cette différence entre le Parti socialiste et les deux partis que soutiennent le gouvernement. Ça, peut-être, c'est une bonne chose parce que cela va donner la possibilité d'avoir une agenda européenne plus fort. Ayant dit ça, il faut de toute façon remarquer que nous pouvons dire qu'il y a un européisme de centre-gauche et un européisme de centre-droite. Je suis d'accord avec mon collègue que les partis de centre-gauche, centre-droite et droite soutiennent l'Union européenne, mais on peut dire qu'il y a un européisme de centre-gauche et un européisme de centre-droite. Je m'explique. C'est très intéressant de regarder les relations entre le gouvernement portugais et les institutions européennes pour cette période de ce gouvernement depuis 2015 et le passé, notamment les rapports entre le gouvernement et la Commission européenne. Donc il y a vraiment une dimension différente. Et je donne un exemple du point de vue politique, c'est qu'effectivement, il a été clair que l'approche politique et la pensée politique du gouvernement précédent étaient différentes de la pensée actuelle. C'est-à-dire, la pensée du gouvernement précédent était intégrée dans une vision de droite et centre-droite libérale d'Europe, tandis que, clairement, les politiques de ce gouvernement et les résultats et les priorités de ce gouvernement mettent en évidence qu'il y a une politique différente qui peut se développer au niveau européen. Nos ambitions pour les élections européennes. La semaine dernière, on a eu ici au Parlement un débat sur l'état de l'Union. Ça fait partie de notre schéma d'accompagner le Parlement, d'accompagner le processus de construction européenne. Et dans mon intervention avec le Premier ministre, le débat c'est avec le Premier ministre, nous avons dit qu'il y a deux objectifs pour les élections européennes. D'abord, avoir un Parlement européen démocratique. Et c'est pas donné. Donc, il faut vraiment travailler pour avoir un Parlement européen démocratique. Deuxièmement, avoir, et ça, j'imagine qu'une partie de votre délégation ne sera pas d'accord, mais avoir une dimension importante des progressistes, des social-démocrates, des gens des partis de centre de gauche, de centre-gauche et de gauche. Ça, c'est un deuxième objectif. Mais l'objectif principal, c'est avoir un Parlement européen démocratique. Deuxième point, le prochain cadre financier pluriannuel. Ce Parlement a créé une commission éventuelle pour suivre les négociations entre le gouvernement portugais et la Commission européenne. C'est une commission éventuelle. Mon collègue a déjà dit qu'on fait beaucoup d'auditions avec des commissaires, des directeurs généraux de la commission, des ministres, des partenaires sociaux. On a organisé des auditions par région, justement pour être bien préparé pour accompagner cette négociation dans le cadre de nos compétences. Et c'est une préoccupation que nous avons et je voulais mettre en évidence quelques points. Le premier, la réduction du financement des politiques de cohésion. Le deuxième point, c'est la réduction de la participation communautaire en ce qui concerne les fonds agricoles. Il y a une réduction par rapport au passé. Et il y a d'autres préoccupations où nous travaillons beaucoup, c'est-à-dire nous travaillons beaucoup en ce qui concerne les règlements. Et on travaille en collaboration avec les députés européens portugais. Parce que nous savons que c'est important l'enveloppe financière est importante. Les priorités du MFF, du cadre financier pluriannuel est aussi important. Mais les règlements pour la mise en œuvre, c'est également important. C'est-à-dire, par exemple, quand nous regardons le cadre financier pluriannuel, nous voyons qu'il y a un transfert de financement de l'argent normalement géré par les pays qui est transféré pour de l'argent qui sera géré par la Commission européenne. Et donc, nous comprenons cette stratégie dans le sens de valoriser la valeur ajoutée européenne, mais il faut des règlements pour qu'on puisse avoir un équilibre entre les différentes régions et les différents pays. Et pour nous, l'objectif premier de ce cadre financier pluriannuel, c'est de promouvoir la cohésion européenne et aussi donner à l'Union européenne une capacité majeure pour agir dans le contexte mondial, soit en ce qui concerne l'innovation, etc., soit en ce qui concerne la construction de la paix, du multilatéralisme, des relations commerciales avec d'autres pays. Donc tout ça doit être clair dans ce cadre financier pluriannuel. Merci. Pedro.
Oui, Madame la Présidente, tout à l'heure, dans votre propos liminaire, vous avez évoqué l'OTAN et à l'instant, vous avez parlé de la construction de la paix. En France, un des sujets qui viendra sans doute au moment de la campagne électorale, c'est celui de l'Europe de la défense. La question qui nous est posée, c'est au fond... Est-ce qu'on peut continuer à penser que la sécurité de l'Europe repose principalement sur l'OTAN, compte tenu à la fois de l'attitude des États-Unis et de son président et de la montée de nombreuses menaces et le réarmement de nombreux pays, sans compter le terrorisme? Et donc ma question, c'est quelle est votre vision de l'Europe de la défense par rapport à ce que nous avons connu jusqu'à maintenant, qui reposait principalement sur l'OTAN.
Merci pour votre question, mais je suggérerais de poser toutes les questions et après nous répondons à la fin pour mieux gérer le temps.
Juste une question aussi sur le mode de fonctionnement. Au Sénat, avant chaque Conseil européen, nous avons un débat. Voilà, pour savoir si vous aussi, vous avez au niveau de l'Assemblée, ici au Portugal, aussi un débat avant chaque Conseil européen, ou si c'est une commission très particulière qui s'en occupe. Et puis ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, sur le vote pour les élections européennes au Portugal, est-ce que c'est un vote par liste aussi de partis? Est-ce qu'il y aura des listes populistes aussi qui seront présentées à votre avis?
Donc, mon collègue du CDS, IPP, va vous répondre. Centre démocrate social, démocrate chrétien, mais centre démocrate social, c'est ça, traduction en français?
Très bien. Excusez-moi, je comprends bien le français, mais pour moi, c'est un petit difficile de parler le français. Je suis d'une génération au Portugal. On parle l'anglais, mais on ne parle pas bien le français. Regardant la défense, je suis complètement d'accord avec vous. On doit avoir sur l'Europe une stratégie plus forte. Et regardant les proximes fonds européens, on voit une participation plus forte de l'Europe sur ces débats, mais en même temps, je sais que on doit avoir le budget national très renforcé à cause de ça. Une autre chose que c'est dans notre tête, c'est l'absence de Royaume-Uni. Avec le Brexit, l'Europe ne va pas avoir les deux grands exercices qu'il y a aujourd'hui, l'exercice français et l'exercice l'armée d'offensive et l'armée de Royaume-Uni. Et pour cause de ça, c'est quelque chose que c'est dans notre tête. Et c'est quelque chose de très difficile de renforcer, spécialement en même temps qu'on a les difficultés dans notre budget. Mais je suis complètement d'accord avec votre propos et votre suggestion.
Moi, je vais parler pour vous, Monsieur le Président, vous allez parler des listes populistes. En principe, non. C'est vrai que déjà aux dernières élections, il y a eu au moins une liste où souvent le discours se rapprochait un tout petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à avoir des petites sensations qu'il y a peut-être des gens qui veulent créer, au moins avoir un discours plus populiste et créer peut-être des mouvements, mais c'est vraiment embryonnaire. Donc si ça va se répercuter sur les listes au Parlement européen, je pense qu'ils auront un peu de mal. Mais c'est ce que j'avais dit dans mon première intervention, jusqu'aujourd'hui, on a tenu, on n'a pas vraiment ce problème, mais nous le savons tous très bien que ça peut devenir un problème très, très vite. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention. C'est vrai que le discours anti-Europe est souvent utilisé pour quelques partis politiques, surtout à gauche et extrême-gauche. C'est vrai que quand on a un problème, on a toujours tendance à dire que c'est le problème de l'Europe. Donc il n'y a pas que le Portugal. Les citoyens, c'est souvent l'Europe la coupable de tout. Et on oublie que l'Europe est composée par nous tous. Donc il y a quelque chose. Mais c'est vrai aussi que la prochaine échéance électorale, n'ayant pas cette question migratoire qui populiste qui est là, donc le débat il sera fait souvent sur des thèmes nationaux et les gens vont voter certainement pour des thèmes nationaux et l'Europe elle sera peut-être un peu oubliée. Mais je pense qu'on n'aura pas des listes populistes. Ici, il y en avait, je pense qu'elles auront, et j'espère, une grande expression au niveau des résultats électoraux.
Merci. J'aimerais aussi vous répondre à cette question. Pendant la soirée d'élection en France, j'étais à la télé pour commenter les élections en France avec d'autres commentateurs dans un panel, dans la chaîne publique. Et moi, je dois vous dire que je suis devenue émue au moment où Macron est arrivé, pour se présenter pour commémorer la victoire, avec l'hymne de l'Europe. Et je pense que la France a donné un exemple, pas seulement avec l'hymne de l'Europe, bien évidemment, mais parce que ce qui est une responsabilité des partis démocratiques en Europe, c'est que comme l'Europe est critiquée souvent comme responsable de tous les mal qui existent dans les pays, il y a une énorme tentation des partis démocratiques, toutes les familles politiques confondues, de retirer l'Europe de l'agenda politique. Et pourquoi je pense que la France est un exemple? C'est parce que Macron, le président Macron candidat, face à une situation où l'Europe c'était le point de conflit entre Macron et Le Pen, Macron n'a pas réduit l'Europe, n'a pas retiré l'Europe de l'agenda politique. politique électorale. Par contre, il a maintenu l'Europe dans le débat. Et ce qui existe, et nous connaissons la situation en plusieurs pays, je pense par exemple à Danemark, où rarement, c'est très rare de parler de l'Europe, parce que toutes les partis politiques, y compris mes amis, nos amis socialistes, ils évitent de parler de l'Europe, parce que l'Europe, c'est un point de conflit entre les différents partis. Et ça, c'est justement, je donne ça comme exemple de situations différentes. Et à mon avis, si nous voulons avoir un Parlement européen démocratique, il faut maintenir l'Europe dans l'agenda politique et confronter les différents agendas et pas cacher l'Europe du débat politique. Ça, à notre avis, c'est très important. Pour les partis populistes, je pense que nous avons deux avantages. Nous avons le CDS, le parti de droite au Parlement, qui d'une certaine façon arrive à contrôler, entre guillemets, jusqu'à maintenant, une extrême droite populiste qui puisse apparaître. Et en même temps, le fait que les partis à gauche soutiennent le gouvernement, donc sont dans un discours plus, comment dirais-je, responsable, il n'a pas un espace pour apparaître un mouvement populiste à gauche. Et ça, c'est ce que nous vivons jusqu'à maintenant. Mais comme disait mon collègue, ça, c'est l'état de l'art maintenant. On va voir dans le futur, mais pour l'instant, on joue très bien avec cette situation. Pour ce qui concerne la préparation des conseils européens, donc, on fait la préparation du Conseil européen en plénière, normalement avec le Premier ministre. Et après le Conseil européen, il y a un debriefing qui est fait par la secrétaire, par Nathalie Oiseau, notre équivalente, un debriefing avec la secrétaire d'État aux affaires européennes sur ce qui s'est passé au Conseil européen. Justement, on a aujourd'hui le debriefing. Mais il y a les deux aspects, la préparation et le debriefing.
Il y a une vraie information des parlementaires portugais de la politique européenne au moment du Conseil de l'Europe. Oui, c'est important.
Oui, tout à fait. Il y a une préparatoire avec le Premier ministre. Et ça, nous avons une loi qui établit la modalité d'accompagnement du processus de la construction européenne. Je vous ai parlé de ce débat annuel sur l'état de l'Union européenne. On le fait. Il a eu lieu la semaine dernière. Il y a tous les préparatoires, les débats préparatoires en plénière pour les conseils européens et il y a les debriefings après les conseils européens. Et bien évidemment, chaque fois que nous-mêmes ou un autre parti politique veut connaître plus en détail une position spécifique du gouvernement, nous pouvons demander aux membres du gouvernement de venir. Par exemple, ça a été le cas sur la coopération structurée permanente pour la défense qui a donné lieu à pas mal d'auditions spécifiques, soit au ministre des Affaires étrangères, soit avec le ministre de la Défense.
En tous les cas, merci. Merci de toutes ces informations, ce parfait français qui nous va droit au cœur. Et nous sommes très touchés de la façon dont vous vous exprimez remarquablement bien en français. Je suppose que vous n'êtes pas candidate aux élections européennes. Vous restez au niveau national, à moins que c'est peut-être un scoop, comme quoi vous serez tête de liste aux élections européennes. En tous les cas, je crois que c'est important qu'à travers ces groupes d'amitié, nous montrions aussi notre volonté de faire en sorte que l'Europe soit à la fois plus forte, plus unie, plus solidaire et plus démocratique. Je crois que c'est des points importants. En tous les cas, merci de votre accueil. Bon, j'ai juste un petit souvenir à vous donner de la part de mes collègues sénateurs, un petit souvenir du Sénat. Est-ce qu'on pourrait faire une photo aussi?